Le Caire est une ville qui est ultra fatigante, ultra stressante, c'est bruyant, c'est...
Beaucoup de klaxons.
Oui, je viens de Hong Kong et à Hong Kong, il y a quand même un des quartiers les plus peuplés du monde, avec 170 000 par habitant par mètre carré, et il n'y a pas autant de bruit en fait qu'au Caire. Pour vivre au Caire, il faut avoir des lieux, refuges, chez soi normalement. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les gens, en fait, ils ont tellement l'habitude du bruit qu'ils l'emportent avec eux. Alors, ils vont à la maison, tu vas chez quelqu'un, et là, la télé est à fond, tout le monde hurle, même s'ils ne s'engueulent pas. Mais par contre, moi, j'ai besoin d'un lieu refuge. Moi, j'ai besoin d'un lieu où je peux m'extraire un peu de tout ça. Alors, ça peut être chez moi. Et il y a d'autres lieux comme l'université américaine que tout d'un coup tu sors du bruit, tu rentres dans un endroit, il y a des arbres, il y a un espace plus ou moins vide, voilà. C'est des lieux qui ont une importance quand on vit au Caire.
Quand on arrive, si on lit quelques guides, une des premières phrases c'est « les Égyptiens ont peur du silence ».
Oui, je pense aussi. Oui, je pense que les Égyptiens ils ont peur du silence. J'ai jamais pensé à ça, mais je suis d'accord. Je pense, en fait, ils ont peur de s'arrêter et prendre le temps de regarder bien leur vie et ce qui les entoure, parce que je pense qu'ils vont être tellement déçus et tellement, et ils vont avoir une amertume, une énorme amertume, au gâchis de tous les jours qu'ils sont en train de vivre. Je dis pas ça parce que je dis mais c'est un très beau pays qui a quand même un temps magnifique culturellement ultra riche. C'est un peuple aussi qui est beaucoup moins agressif que plein d'autres peuples. C'est un peuple qui a l'habitude. C'est comme si le passage du Nil comme ça et le regarder le Nil passer sans que rien l'arrête depuis des milliers d'années, a fait que les Égyptiens laissent passer le temps. Quoi. Et pour eux, la vie continue, malgré tout. Et du coup, il y a une certaine aisance. Mais en même temps, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Égypte, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis un certain temps, l'Égypte n'est pas à la hauteur de ses attentes. Et je pense que les Égyptiens ont peur de regarder ça en face, de voir ça. Tout s'écroule autour d'eux. L'héritage islamique, l'héritage pharaonique, l'héritage contemporain, tout s'écroule. Rien a une valeur, en fait. C'est comme si rien n'a de valeur. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il s'agit tout le temps et il ne s'arrête pas.
وانت ابدا ما بتسمحيش ابدا حتى بعد 20 سنة لحد النهارده ما فيش حد عنده ابتسامة
بعد ايه الابتسامة الجرح في وشي
بفرح لما بتغيري
تفرح لما تفرح
Il est 20h sur France Culture et le bruit arrange le pouvoir. Il n'y a pas de silence, il n'y a pas de raison d'en faire, il vaut mieux se saouler de musique, de klaxons, de trafic, de télévision très forte, de petites phrases et ne pas trop réfléchir. Ahmed El Attar a mis en scène un spectacle où il reconstitue des conversations de téléphone. Avec son père, son fils, des amis, il nous les restitue telles quelles, mais il doit hausser le ton parce qu'en fond il y a la musique d'un transistor, très fort, comme dans les petites échoppes des rues Cairote. Il faut tendre l'oreille pour entendre l'espoir, les doutes pendant la Révolution. Malgré le bruit, il y a des voix. Ça parle, ça pense, ça ne se résigne pas. Ça s'appelait « De l'importance d'être un arabe ». Ahmed El Attar est réputé têtu. Il a grandi au Caire, il a très vite compris que dans la ville des klaxons, il fallait créer des poches de silence, des espaces nouveaux, créer du temps. Au théâtre, il travaille le langage et ses pièges. Il a compris que la langue était dévoyée. On vous ment, on vous manipule, on vous dit le contraire de la vérité. Il a grandi avec des mensonges, des faux discours. Alors sur scène, pendant près de 15 ans, il a mis au centre des conversations de café, des coups de téléphone, des entretiens d'embauche. Il a collé des bouts de réalité pour faire entendre l'absurdité. Il travaille le conflit avec l'autorité. On a le même rapport avec son père, avec un patron, avec un président. Il pense que ce rapport-là est malade. Il l'affronte. Pour son père, le choix du théâtre, c'était la défaite. Mais Ahmed El Attar crée du silence et des rendez-vous. Il a été assez fou en 2012 pour imaginer un festival d'art contemporain et de performance dans le centre du Caire. Ça s'appelle DICAF, c'est chaque printemps. Alors la question de la censure, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas comme ça que ça se pose. La question c'est comment on se rapproche le plus possible de la ligne sans forcément l'enjamber. Comment on la frôle? Comment on avance avec une révolution qui, même si on a effacé les traces, reste indélébile dans les corps et dans les esprits? Après la Révolution, il a fait un spectacle, The Last Supper, un dîner chez une famille cairote aisée. Une sorte d'expérience du vide avec ceux qui parlent encore pour ne rien dire, mais qui ont gardé le pouvoir. Le bruit, ça les arrange. Mais Ahmed El Attar creuse un peu de silence au cœur du Caire pour faire résonner ceux qui parlent, ceux qui pensent, ceux qui ne se résignent pas.
Vous écoutez la radio.
Et en arabe, comment on dit?
Yalla, ne chauffe le vidéo. Yalla, comme avant. Yalla, comme avant.
Donc là, on est en voiture dans le Caire et comme c'est vendredi, il y a moins de trafic, de bruit, de soucis que, oui. Que les autres jours.
Ouais. Et il y a moins de tout, hein. Il y a moins de monde, moins de voitures. Voilà, c'est le seul moment où la ville, pour moi, se dévoile en fait. On peut voir la ville du Caire comme je l'ai connue il y a 30-40 ans où j'ai grandi. C'était comme ça. C'était pas aussi. C'était toujours chaotique, mais c'était quand même pas aussi plein tout le temps et aussi bruyant tout le temps. Il y avait quand même des moments, il y avait de l'espace. Et là, on peut vivre ça que le vendredi matin et pendant les fêtes, en fait.
Et là, on arrive dans Downtown Cairo. Voilà. Là, on est sur la place Tahrir.
Oui, on est sur la place Tahrir qui est devenue super moche avec le porte-drapeau, là. Et,
voilà. Ils ont remis des petits plants de fleurs et tout ça.
Ouais, c'est l'esthétique qui est... C'est pas les fleurs, bien sûr, mais c'est juste le monument horrible en plein centre de la place Tahrir, qui représente aussi toute une pensée, une mentalité, en fait, c'est ça. En fait, c'est des formes géométriques interposées qui n'ont aucun sens. Enfin, du marbre noir avec la peinture beige et un porte-drapeau de 35 mètres. Voilà, il n'y a pas de concept derrière. Et c'est ça la grande différence. C'est là, on est dans un système qui n'a pas d'esthétique, pas de concept.
Il n'y a pas de pensée.
Il n'y a pas de pensée et c'est très dangereux, je pense.
Nous sommes en voiture avec le metteur en scène Ahmed El Attar. C'est vendredi. On tourne place Tahrir, où tout a été refait, où les traces de la Révolution, il faut les deviner. Il y a des fleurs et un nouvel édifice massif qui ne dit que la reprise en main du pouvoir. À quelques rues d'ici, l'ancienne université américaine et le théâtre Falaki, dont il est directeur. C'est un des lieux du festival d'ICAF. On entendra ce soir son aîné, Hassan El-Gheretli, qui a fondé El Warsha, la première compagnie de théâtre indépendante en Égypte en 1987 et qui fêtait dans le festival cette année ses 30 ans. On commence avec Ahmed El Attar, qui depuis ses 16 ans et un échange en France, n'a plus jamais quitté la liberté de penser et une certaine idée de la rébellion ou de la résistance.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment.
C'est quoi un Saïdi ?
Un Saïdi, c'est les gens du sud, le sud de l'Égypte. À partir de. De Minya jusqu'à Luxor, Aswan, c'est des Saïdis, c'est les hommes du sud, c'est les gens du sud en fait.
Je crois que vous disiez, moi je suis un Saïdi, un homme qui a la tête dure, un peu
oui.
Têtu et obstiné.
Oui, mais parce que ils ont la réputation d'être têtus, les Saïdis. Aussi de ne pas être très intelligent, mais ça c'est, il y a toujours un stigmatisme vers le sud. Il y a une mythologie autour des gens du sud qui sont généreux, c'est des chevaliers, c'est des gens qui tiennent leur parole, mais qui sont aussi vraiment très têtus. Un petit truc peut déclencher une guerre nucléaire, ou pas une guerre nucléaire, mais vraiment quelque chose d'énorme pour quelque chose de très petit.
Et est-ce que vous avez une obstination qui vient de là?
Je pense, oui, je suis obstiné comme un Saïdi, quoi. Je suis obstiné dans le sens que je continue malgré tous les revers qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Hein. Je pense pas que je suis le seul, hein. C'est-à-dire que la vie est dure ici. La vie est dure ici parce que, encore une fois, d'abord c'est le chaos, personne ne respecte, les règles sont complètement irrespectées, personne ne les respecte. C'est le pouvoir qui gère les relations entre les gens, c'est-à-dire le niveau de ton pouvoir, c'est cela qui va gérer tes relations avec les autres. Et du coup, c'est infernal, c'est extrêmement compliqué de travailler dans un système pareil.
Parce que vous venez d'une famille de marchands ?
Oui, moi, je suis né et j'ai vécu au Caire toute ma vie. Mais mon père, il vient du sud, de Minya, qui est vraiment une ville plein au centre. Minya, c'est la deuxième ville d'Égypte qui a le plus grand nombre de monuments pharaoniques après Louxor. Parce que c'était la ville d'Akhnaton. Quand Akhnaton a fait le séisme religieux, il est parti avec la capitale de l'Égypte, de Thèbes, à Louxor, à Minya. Et moi, j'ai grandi une partie de ma vie à Minya parce que l'été, on allait voir mes grands-parents, mes oncles et mes tantes. Et je passais l'été là-bas pendant plusieurs années de mon enfance.
Ça veut dire quoi, El Attar ?
El Attar, ça veut dire l'herboriste. En fait, c'est la profession de mon grand-père et de mes arrière-grands-parents. Et un de mes oncles a toujours le magasin d'herboristerie à Minya.
Qu'est-ce qui se passe alors à 16 ans quand vous quittez le Caire et que vous allez étudier à l'étranger ?
En fait, mon père a eu la bonne idée de m'inscrire au lycée, pas au lycée, mais au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Alors j'ai fait toutes mes études chez les frères, depuis le jardin d'enfants jusqu'à la terminale. Chez les frères au Caire. Et à l'âge de 16 ans, il y avait un programme d'échange culturel entre la France et l'Égypte. Et je me suis trouvé à 16 ans en France, un peu dans la banlieue nord, sud, après dans la banlieue nord. Et j'ai vécu chez des familles françaises pendant un an. Ça m'a beaucoup changé la vie parce que c'était la première fois que je sortais de chez moi, de l'Égypte. Ma relation avec l'Occident était jusqu'à ce moment-là très culturelle, c'est-à-dire à travers la lecture, la musique. Et cette année, ça m'a ouvert les yeux sur une partie de la réalité du monde occidental et de la pensée et tout ça. Et de la société, comment elle est composée. Je me rappelle quand j'ai entendu Renaud chanter l'Hexagone, c'était pour moi, mais c'était un moment très fort pour moi parce que ça incarnait toute la liberté que j'imaginais qu'une société peut donner à ses citoyens. C'est la capacité de critiquer sans limite.
Et c'est facile après de revenir à Jean-Baptiste de la Salle chez les frères ?
Ah, pas du tout. Surtout quand on a 16 ans, en fait, parce que on n'a pas vraiment d'expérience, on est naïf, ce qui est bien. C'est pas mauvais d'être naïf, en fait. C'est pas mal d'être naïf. Moi, je trouve que c'est très bien. Mais c'est juste, c'est ultra compliqué parce que en plus, c'était les années 80, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait rien. Les sociétés étaient beaucoup plus refermées sur elles-mêmes. Tout ce qu'on recevait de l'extérieur était contrôlé facilement. Et du coup, j'étais un ovni, en fait. Aujourd'hui, même s'il y a des régimes régressifs partout dans le monde, mais il y a quand même des ouvertures. L'Internet est là, les gens voyagent beaucoup plus. Il y a des satellites partout dans le monde, des chaînes télé, tout ça. Dans les années 80, il n'y avait pas tout ça. Alors moi, je suis revenu. J'avais changé physiquement, la façon dont je m'habillais, tout a changé. Et
vous
là,
étiez comment physiquement ?
Retour
de France.
C'était les années Indochine, Depeche Mode. J'avais des boucles blondes dans mes cheveux, dans mes longs cheveux. C'était un peu un mélange entre The Cure et Indochine, avec les chemises en satin brillant et les chaînes et les bagues et tout ça. Voilà, c'était ça. C'était un au milieu de tous.
Quand vous pensez à aller à l'université, vous pensez aux sciences de l'informatique?
En fait, pas du tout. Moi, en France, j'ai fait une expérience. J'étais au lycée à Suresnes-Mont-Valérien. Et j'étais au lycée là-bas, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était Paul Langevin. Et il montait six auteurs en quête. Six personnages en quête d'auteur de Pirandello. Moi, j'avais lu le théâtre, j'avais jamais pratiqué le théâtre, parce que ici, même dans les lycées, les trucs, le théâtre, j'avais lu, et j'ai été au théâtre avec mon père plusieurs fois avant d'aller en France. Et là, on m'a demandé de faire le barman de théâtre, en fait. Et je me rappelle de ça très bien, j'ai même l'affiche jusqu'à maintenant de ce spectacle. À la fin du spectacle, ils ont fait une petite fête, et la sortie des acteurs en maquillage et en costume, ça m'a laissé une image comme ça assez forte. Et je suis rentré en Égypte, et comme j'étais un grand fan du cinéma, je regardais le cinéma de centre-ville. Chaque vendredi, j'allais au cinéma, et j'allais 2-3 fois par semaine au cinéma quand je habitais au centre-ville. Et du coup, je voulais faire du cinéma. Et puis mon père, comme mon père, il est toujours... Il y a un amalgame, moi, je pense, dans la pensée arabe, ou pas un amalgame, c'est une façon de ne pas voir les choses en face. Il y a un mythe qui dit que le monde arabe à la supériorité morale, et que les défaillances du monde arabe, c'est le manque du savoir technique et scientifique. Et c'est pour ça qu'on n'est pas en avance. Et c'est pas juste en rapport à l'Occident, c'est en rapport au reste du monde. Et des années-lumière plus tard, j'ai réfléchi à ça, et je pense que c'est un mythe qui est juste fait pour ne pas regarder les choses en face. C'est pas vrai. En fait, oui, on est en retard scientifiquement, techniquement, tout ça. Mais c'est pas ça la raison. C'est le contraire. C'est notre défaillance morale qui fait qu'on est en retard sur le monde. Moi, je compare l'Égypte et le monde arabe moralement et humainement au roman de Charles Dickens. Les personnages complètement tordus, c'est pas juste qu'ils sont tordus physiquement, ils sont tordus psychologiquement, c'est-à-dire Sykes dans Oliver Twist, c'est des personnages qui sont, défigurés de l'extérieur et de l'intérieur. Bah, mon père voulait que je sois un scientifique. J'ai cédé. Je voulais faire du cinéma. Je voulais aller à l'académie du cinéma au Caire. Et mon père m'a convaincu que non. Voilà. Alors j'ai fait l'université du Caire pendant un mois. J'ai fait section sciences où je faisais 32 heures par semaine de physique, maths et chimie. Et je détestais. Et à ce moment-là, j'étais accepté à l'université américaine en bourse pour 4 ans. Et c'est comme ça que je suis rentré ici. Et encore une fois, mon père m'a convaincu de faire computer science, de sciences de l'informatique. J'ai fait un trimestre et à ce moment-là, j'ai été invité à travailler comme assistant régisseur pour un spectacle étudiant. Et je n'ai pas quitté le théâtre depuis, en fait. Depuis le jour où je suis rentré, où j'ai dit oui, et je suis rentré pour faire ce job, je ne suis jamais encore sorti. Pour la première fois, l'université américaine a créé un département théâtre. Alors du coup, j'ai laissé tomber l'ordinateur et j'ai fait mes études de théâtre à l'université américaine.
Et quand vous avez dit à votre père, j'arrête l'informatique, je fais du théâtre?
Ah oui, ça n'a pas très bien. Déjà avec mon père, c'était la guerre depuis mon retour de France. Alors voilà, tout est prétexte de continuer la guerre et ça c'était insensé pour lui, c'était le pire choix que je puisse faire de ma vie, de faire du théâtre où personne ne gagne leur vie du théâtre. Et puis aussi j'ai trouvé un refuge au théâtre, c'est de là où vient l'insistance, c'est que j'étais perdu dans ma vie un peu, j'étais un peu rejeté par mes proches, la société me traitait comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, parce que j'étais très différent, au moins en apparence. Pourtant, j'avais grandi toute ma vie ici, alors c'est-à-dire que j'avais des liens très forts, mais en même temps, j'étais un peu repoussé quand je suis rentré de France, et tout ça, et puis être à l'université américaine, moi je viens de la classe moyenne, et en plus de la classe moyenne qui... vraiment au bas de la classe moyenne, et là je me trouve avec des gosses de riches d'un peu partout dans le monde. Tout ça, à 16 ans, avec un conflit énorme avec mon père, tout ça mélangé ensemble, à 16 ans, j'étais complètement paumé, et le théâtre m'a vraiment donné un cadre, un espoir, une énergie, voilà.
Ahmed El Attar, au Caire, metteur en scène égyptien.
Et c'était un refuge, est-ce que c'était aussi un endroit où on pouvait s'affronter un peu à justement la figure du père, de l'autorité, parce que c'est au centre de ce que vous travaillez?
Tout à fait, c'était une façon de continuer la lutte en fait. Envers le père, mais le père comme figure d'autorité, parce que c'est pas le père en lui-même. C'est ce qu'il représente dans la société. C'est une vie, le théâtre. Et du coup, ça donne une famille que moi, au moment où ma famille me laissait tomber.
Oui. Et comment il a évolué ce rapport avec l'autorité dans la société depuis vos 16 ans jusqu'à aujourd'hui?
Ces rapports-là prennent beaucoup de temps à changer, en fait. Même moi, personnellement, même si j'étais en conflit avec cette autorité, j'ai passé des années à être tiraillé entre deux choses, entre mon désir de plaire à cette autorité. Anna, la bosse, je vais aller là-bas, comme ça, on a hégé.
Non, je veux jouer là-bas.
C'est bon, ici. Moi personnellement, j'ai mis des années à arriver à me débarrasser de ce, ou de me débarrasser, ou vraiment de le minimiser ce désir d'être, de plaire à l'autorité, qui est le père. La société, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que même si on est critique envers l'autorité, on est tellement dans, on est dans un système, on a grandi, on a évolué dans un système où on est automatiquement en train d'essayer de rentrer dans le cadre avec ou dans ce rapport avec l'autorité. L'exemple, Moubarak est parti, on a remis Morsi. Morsi, c'était une copie conforme de Moubarak, mais avec un autre costume qui vient d'un autre registre. C'est exactement la même chose. Et ainsi de suite. Et on est en train de reproduire la même chose. Mais cela dit, moi je pense que la révolution a changé ça. Parce que le conflit qui est arrivé entre les générations en Égypte, sur les 4 dernières années, après les 25 janvier et le 30 juin et tout ça, il y a eu des énormes conflits entre les gens et entre les générations. C'était très clair que c'est un conflit générationnel. Et ce qui a permis, pour la première fois, un conflit ouvert entre le père, l'autorité du père, et le fils ou la fille, et ainsi de suite. Ce qui n'était pas... Moi, j'ai vécu ça dans les années 80 tout seul, mais la société ne fonctionne pas comme ça du tout. Et je pense que c'est un début. Mais ça va prendre du temps, de toute façon. Ça prend du temps pour qu'il y ait une génération qui arrive et qui est capable de confronter cette autorité et de la remettre à sa place. Parce que l'idée, c'est pas juste de confronter l'autorité. L'idée, c'est que, c'est le développement naturel de la vie, en fait. On a bien appris pendant la Révolution, ou après la Révolution, qu'il faut une conscience, il faut une pensée derrière les choses. On ne peut pas... Une révolution qui n'a pas de pensée, c'est... Je dirais pas que c'est nuisible, mais c'est quand même... Il manquait à cette révolution une pensée, une réflexion. Quelque chose qui, au moment où ça part dans tous les sens, ce qui est normal dans une révolution, on peut avoir des points de repère. On n'avait pas ça. Et je pense que c'est un des problèmes. Moi, je pense qu'il va y avoir une conscience de ce conflit. C'est-à-dire, on est dans un conflit, par exemple le conflit avec le père, on est dedans. Et quand on est dedans et qu'on est jeune, on n'a pas nécessairement une vue... On prend pas de distance, on est vraiment impliqué. Je vis un peu la même chose avec mon fils aîné. J'ai un fils de 17 ans qui est moitié français, moitié égyptien, qui vit à Paris avec mon ex. J'ai eu avec lui un rapport conflictuel pendant, je dirais, 6 mois l'année dernière. Ça m'a pris moi du temps pour me rendre compte que j'étais peut-être en train de reproduire les mêmes schémas que j'avais vécu avec mon père. On a des démons comme ça qui sortent. Et quand j'ai pris un peu de distance et j'ai pris des décisions différentes et j'ai fait une approche complètement différente, c'est pas juste pour ne pas être comme mon père, mais simplement pour être cohérent avec moi-même et avec mes pensées et ma vie. Et je pense que la société a besoin de faire ça.
Vous avez fait une performance à partir de coups de téléphone de proches de votre fils aussi, et qu'est-ce qu'on pouvait se dire, qu'est-ce qui parasitait aussi peut-être ces échanges-là. Et vous reproduisiez sur scène les coups de téléphone, et en même temps il y avait une musique très très forte qui parfois parasitait ou empêchait d'entendre vraiment ce qui se disait.
Oui, c'est un peu, c'est comme si j'avais mis ma vie dans un mixeur, ma vie en Égypte dans un mixeur, mélangé et puis et présenté en smoothie en fait. C'est bien sûr la musique, c'est un peu une référence, la musique qui est assez forte, qui est très charbi, musique locale égyptienne, et vraiment une référence à l'incapacité de passer, comme on a dit tout à l'heure, de passer 5 minutes sans avoir quelqu'un qui crie, un klaxon, le bruit constant qui parasite la vie entière. Et puis aussi les conversations téléphoniques, c'est essayer de prendre un moment de cette vie et de la présenter en état pur ou en état brut au spectateur. Et bien sûr mon fils fait partie de cette vie.
Vous aviez choisi quoi comme genre de conversation ?
Bah, ça dépend, il y a plusieurs versions, parce qu'en fait, comme je m'imite sur scène et je n'apprends pas mon texte, j'ai une oreillette, mes coups de téléphone que j'avais choisi passent en mon oreille, et moi, je répète ce que j'entends.
Vous les enregistriez ?
Oui, et du coup, chaque 3 ou 4 présentations, je change de conversation. Alors, j'ai plusieurs versions. J'ai les Obama Tapes qui étaient basés sur la conversation centrale. C'était avec un ami autour de la visite d'Obama au Caire. J'ai les Revolution Tapes qui représentent une partie des 10 derniers jours de Mubarak et mes conversations avec des amis, avec des gens en dehors de l'Égypte, avec des gens en Égypte, mon père, ainsi de suite. Et puis, il y a plein de conversations. Ça dépend du moment de ma vie, en fait. De ce qui se passe dans ma vie et autour de moi.
Et justement, au moment de la Révolution, ça ressemblait à quoi, vos conversations avec votre père et avec votre fils ?
Ah, c'était... En fait, ces Revolution Tapes, je les refaites en Corée, en octobre. C'était très touchant, en fait, parce que c'était des conversations avec des gens très différents, avec mon père, avec un ami aux Pays-Bas, avec mon ex à Paris, mon fils à Paris, avec voilà, des gens, des copains ici. C'est comme si j'avais enregistré des moments de l'histoire, de mon point de vue, on se rend compte à quel point on était naïve, à quel point on avait de l'espoir, et presque tout ce que je disais était faux, en fait. C'est ça. C'est tout ce que j'imaginais va être, ne s'est jamais fait. Et ça fait... Ouais, c'est touchant, ça fait un peu triste, parce qu'on se rend compte que tout l'espoir est presque perdu.
Et votre père, il disait quoi à cette époque-là, puisque c'est un conflit générationnel ?
La révolution du 25 janvier, le début, tout le monde était d'accord. Ça, tout le monde était d'accord. Parce que, voilà, il y avait un ras-le-bol absolu. La place d'Arles, c'est vraiment ce qu'elle représentait, pas seulement la place d'Arles, parce qu'il y avait des gens un peu partout dans toutes les villes et villages d'Égypte. Il y avait une solidarité entre toutes les classes, toutes les générations, et c'est ça qui était magnifique. Et c'est ça qui a donné un vrai espoir à tout le monde, en fait, de voir ça. Et après, le fait, encore une fois, qu'il n'y avait pas... Que c'est une société qui manque de politique, c'est-à-dire que manque de politique dans le sens qu'il y a, depuis 60 ans, ne fait pas de politique, même depuis avant. Depuis 60 ans, depuis la révolution de Nasser, il n'a pas fait de politique... Pas d'expérience, pas d'idéologie non plus, ni de pensée. Et du coup, ça commençait à se décomposer très tôt, en fait. Mais on se rendait pas compte. C'est là où les conflits générationnels commençaient à prendre forme. C'est là où on voyait comment la génération de mon père, elle est très conservatrice, elle est vraiment... en fait, c'est elle qui a créé ce modèle de ségrégation sociale sous couvert de démocratie ou de socialisme. Je veux dire, mon père, il est très de gauche. Hein. Mais c'est sous ces couverts-là, au fond, il y a un sens de l'autorité, un autoritarisme qui est incroyable, une lutte de classe impossible et... Ce conflit-là a commencé à prendre forme dès que les premiers jours sont partis et qu'on commençait à mettre les points sur les i et voir comme où on va. Et là, et puis ça a été très très clair après le 30 juin quand même. Ça, c'était très clair. C'était surtout les vieux qui soutenaient le 30 juin.
Moi, j'ai une chanson avant la révolution, il y a 6 mois, qui s'appelle Le Rêve. J'ai rêvé de la révolution et du changement. J'ai dit que le rêve va venir sûrement. Sûrement. Et c'est le début de cette chanson. Et après la révolution, cette chanson, maintenant je l'entends à la télévision. Le rêve va venir sûr. Hein? Et on doit rêver. On doit rêver l'Égypte. On va traverser avec toi la tempête et rien ne te vaincra. Ça, c'est le refrain.
الحلم جاي صريح ولازم نحلمك هنعدي بيك الريح ولا شيء رح يهزمك الحلم جاي صريح ولازم نحلمك هنعدي بيك الريح ولا شيء رح يهزمك مدي الخطى مواعيد وأحط إيد على إيد ده الفجر جاي أكيد وطارح موسمك الحلم جاي وشايل لقلوبنا غنوة أمل.
مساء الخير، أنا أحمد العطار، إحنا في القاهرة وإنتوا بتسمعوا فرانس كولتور. بونجور، جو سوي أحمد العطار، vous êtes au Caire et vous écoutez France Culture.
Vous avez demandé après la révolution de travailler sur ça pour un spectacle.
Il y avait, on m'a pas demandé personnellement, mais il y avait plein de
l'attente
et de soutien et de quelques producteurs qui voilà qui voulaient. Il y avait des fonds qui étaient culturels qui voulaient soutenir toute création qui a comme thème la révolution, tout ça. Moi, j'ai pas voulu toucher à tout ça parce que je pense que les moments aussi forts dans la vie de l'être humain, mais aussi dans la vie de la société, on a besoin du temps pour pouvoir les digérer, les assimiler, les comprendre, prendre les distances et pour pouvoir s'exprimer. Parce que c'est quand même des moments, on allait d'un extrême à l'autre, un extrême de joie et d'espoir, et puis une heure plus tard, un extrême de dépression et de peur et d'angoisse. Et on ne peut pas se mesurer à ça, en fait. Et de toute façon, un artiste, ça ne s'intéresse pas à ce qui est apparent dans la politique et dans l'histoire. Au contraire, un artiste, ce qui l'intéresse, quand moi je regardais la Révolution, je voyais le conflit avec le père, ou la place de la femme. C'est ça qui m'intéresse le plus. Pour moi, c'était ça. C'était pas Moubarak parti, machin qui vient, le gouvernement. Oui, en étant citoyen, ça m'intéresse. Mais en étant artiste, c'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Moi, je pense que c'est beaucoup plus profond, qu'il y a beaucoup plus d'impact que ça. Et du coup, je me sentais pas du tout ni l'envie, ni le pouvoir de parler de la Révolution. Et même jusqu'à maintenant, Dallas, ça peut être mon dernier spectacle, ça parle de la Révolution, mais ça ne parle pas de la Révolution non plus. Parce que ça parle de pour moi, j'étais choqué comment les classes aisées, les classes riches de la société égyptienne étaient complètement en dehors de tout ça. C'est-à-dire que ils étaient dans une bulle et quoi qu'il arrive autour, c'était pas grave, ça ne les touchait pas. Et c'est ça qui m'a choqué, et c'est ça que j'ai essayé d'en parler dans le Last Supper avec d'autres choses, mais voilà.
C'est un dîner dans justement une famille de haute bourgeoisie, Kairot, voilà, avec les personnages de toute une famille.
Voilà, avec des personnages qui n'ont pas grand-chose à faire ni à dire dans la vie, mais quand même qui tiennent le center stage, qui sont au centre de tout et qui ont tous les pouvoirs et qui le savent et qui l'utilisent sur tous les autres. Et pour moi, c'était ça, ma façon de voir la Révolution, de parler de la Révolution.
Et c'était aussi, même s'ils n'ont pas grand-chose à dire ou à penser, ils sont très bavards et ils parlent. Donc c'est aussi, c'est quoi ce langage qui tourne à vide?
Oui, ils ont la parole partout. Dans les soirées, dans les dîners, à la télé, c'est ça. C'est eux qui ont la parole. Personne d'autre n'a la parole. Ils vont parler jusqu'au bout.
Est-ce que du coup c'était aussi travailler sur comment on est manipulé par cette langue-là ou comment le langage il est dévoyé finalement?
Oui, comment la langue elle a perdu un peu le sens, le langage a perdu son sens. Et ce message, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps en Égypte. Comment le langage a perdu toute valeur. C'est pour ça que j'essaye toujours de sortir de l'emprise de la langue au théâtre. Mais entre 2000 et 2014, c'est 14 ans où j'ai fait peut-être 5 ou 6 spectacles, j'avais écrit très très peu, c'était que des collages ou des textes volés, des textes de tous les jours que je recyclais. C'était ma façon de combattre la langue qui nous entoure et qui nous hypnotise. On est dans un discours permanent de tout va bien, comme dans 1984 de George Orwell, en fait. C'est presque une transe. Et du coup, moi, je voulais sortir de la fiction, de tout ce que ce langage peut représenter. Des feuilletons télé, de tout ça. Et vraiment faire un contre-langage qui est basé sur des choses comme les conversations téléphoniques. Non, à l'état brut, tout ce que je faisais, c'est de choisir les conversations. Je les prenais comme ils étaient.
With you at the Euro, the day you said to me I love you, my eyes spoke to you, my heart was beating too, and then my love was born anew. The waves of the Nile were playing with the moonlight, the sound of a night was heard in a quiet night. You whispered in my ear, you loving so my dear, and said your love was
Je m'appelle Hassan El Gretli et je suis metteur en scène de théâtre, fondateur de la première troupe indépendante égyptienne, El Warsha, c'est-à-dire l'atelier, dans ce que tout ça a de connotation de bruit, d'activité, etc. Pas éthéré, enfin pas l'atelier d'un artiste peintre, mais l'atelier plus style garage.
C'est une année particulière. Hassan El Gretli a fêté les 30 ans de sa compagnie El Warsha. Quand il l'a créée en 1987, c'est la première compagnie de théâtre indépendante en Égypte. On les compare souvent au Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine, parce que beaucoup d'acteurs sont passés par là, partent, reviennent, parce qu'il a ce même goût pour les épopées, les contes populaires, les grands récits, les mythes, mais aussi la langue vernaculaire. Parce qu'ils ont créé les Nuits d'El Warsha, des veillées populaires. Hassan El Gretli est né à Alexandrie, d'un père égyptien et d'une mère écossaise. À 9 ans, il décide qu'il veut faire du théâtre. Il part étudier en Angleterre, puis en France. Il crée à Limoges les Tréteaux de la Terre et du Vent, avant de rentrer en Égypte.
Moi, j'avais une envie, à cette époque, c'était de travailler dans le cinéma et pas en tant qu'acteur. Ma mère allait chez le même psychanalyste que Youssef Chahine à l'Immobilia au centre-ville et un jour, il me fait rencontrer Youssef Chahine qui était blotti comme un chat dans son grand fauteuil comme ça et qui m'a dit « Va apprendre, finis tes études et reviens me voir ». Donc, j'ai fini mes études, j'ai travaillé des années puis je suis revenu le voir. Et donc j'ai travaillé plusieurs années dans le cinéma, j'étais le premier assistant de Chahine. J'étais plus celui qui écoutait, discutait, qui...
Et de Youssef Chahine, qu'est-ce que vous avez appris? Parce que souvent vous parlez, je crois, de l'indépendance qui était importante pour lui.
Oui.
Et qui vous a peut-être transmis ça. Aussi ce goût de l'indépendance.
Oui, oui, peut-être ça. Je crois que c'est la chose que j'ai apprise, c'est-à-dire que j'ai côtoyé le meilleur du cinéma égyptien pendant des années. C'était le seul chemin à l'époque. Tout le monde passait par Chahine, etc. Maintenant, le monde s'est ouvert à beaucoup d'autres et des façons plus légères, moins hiérarchisé, parce que Shahin, c'est quand même l'hiérarchie, hein. Mais ce qui m'a intéressé chez Shahin, c'est ce que Shahin n'a jamais dit dans ses films. C'est vrai que dans une société comme la nôtre, c'est pas toujours facile de dire tout ce qu'on a à dire. Il s'est débrouillé pour dire beaucoup de choses. Mais Shahin avait des choses beaucoup plus riches à dire qu'il n'a jamais dites. Et moi, j'ai travaillé sur ce film et j'ai beaucoup travaillé avec Dalida qui essayait de travailler son arabe. Moi, j'avais proposé à un moment qu'on la double par une actrice. J'ai proposé une très bonne actrice égyptienne, mais Dalida a refusé. À un moment, elle a dit « je me double moi-même » et j'ai passé tout un été à Paris, dans sa villa de Montmartre, comme ça, à travailler avec elle pour qu'elle redouble. Et ça n'a jamais complètement marché à ce niveau-là, parce qu'elle jouait le rôle d'une paysanne égyptienne avec un petit accent italien qui ne gênait pas trop Shahin, parce que Shahin avait l'idée qu'il fallait accepter l'autre.
Youssef Shahin, 2007.
Le pays est devenu un pays policier. On ne peut pas faire beaucoup de choses sans avoir des permis et des permissions, et des censures et pas des censures. La liberté commence à être étranglée par le système même, pour tout. Mais si eux se croient malins, moi je suis aussi un fils de pute, je sais très bien m'arranger à passer les choses qu'ils ne veulent pas.
Vous détournez, vous...
Oui, je détourne, je fais... c'est un drôle de labyrinthe avec eux. Mais je fais de mon mieux.
Parce que vous devez déposer vos films à la censure ?
Avant le tournage.
Avant le tournage.
Et parfois, pendant le tournage, vous avez deux femmes voilées qui viennent et qui s'assoient et qui boivent des tas de tasses de café. Je compte les tasses pour savoir quand est-ce qu'elles vont me foutre la paix. Et j'ai un assistant spécial... qui est très beau, qui est très gentil. Alors, il leur fait la cour, et dès qu'il y a un baiser, ils disparaissent tous dans le corridor. Hein. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font pas, ce n'est pas mon affaire. L'essentiel, c'est qu'ils ne sont pas là sur le tournage.
D'accord.
Alors, pendant que je tourne mon baiser, tout le monde disparaît.
Je crois qu'on n'a pas, pris la décision d'être une troupe indépendante. On a simplement continué et on a sans doute découvert un espace, une sorte de marge, que la page, on n'était pas obligé de tomber de la page, qu'il y avait une marge. Je crois que la chose la plus importante qu'on ait faite, je crois que dans nos 30 années, c'est de donner confiance à des gens que c'était possible de faire autrement. Le jour où on a décidé de ne dépendre ni de la logique étatique, ni de la logique commerciale, mais de prendre un pas de côté, on a été politique. Travailler sur le vernaculaire, l'expérience vernaculaire, c'est un choix politique. Travailler sur la vie quotidienne, travailler sur les villes, travailler sur l'Égypte avant la Révolution, avec les chansons de Cheikh Imam et de Ahmed Fouad Naïm. Travailler sur la révolution, sur les guerres, etc. Aux bombes dans l'église d'Alexandrie, on ne pouvait plus. Je veux dire, là, on est devenu ouvertement politique. Mais je crois que là, moi, je crois personnellement que la décision la plus politique et qui nous a le plus coûté en résistance et qui était anathème, c'est de se déclarer indépendant. Comment vous avez survécu 30 ans ? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, mais on s'est adapté. Vous vous censurez, mais je dis, c'est pas la bonne question pour moi. Je veux dire, on est à la barrière en train de pousser selon le moment. On ne s'est jamais blotti comme ça, loin de la barrière, ni de l'autre côté forcément, mais je veux dire, à chaque époque, sa façon de résister.
Et est-ce que 2011 et la révolution, ça a modifié aussi la façon d'imaginer pour vous un moment de théâtre? Comment vous vous êtes posé cette question de comment on va parler de ça? Comment on va témoigner?
Si tu veux, pour moi, à ce moment-là, c'était l'évidence. Je veux dire, moi, j'ai 69 ans. Le seul moment de ma vie où j'ai vu l'Égypte se dévoiler, se manifester, se sortir de l'intérieur ce qu'elle avait, c'était ce moment-là. Voilà le pays que je pressens. C'était le pays que je pressentais. Bon, il s'est passé des trucs entre-temps, mais jamais on nous dira que c'est impossible. C'est en ça que c'est indélébile. Il y a une référence. Et il y a, moi, avec mes acteurs, j'essaye de créer une référence de plaisir.
En quoi votre vie quotidienne est-elle différente depuis la Révolution, avant et après?
La chose la plus intéressante, c'était le calme de la circulation. Alors, la circulation est devenue à doubler, je crois. C'est beaucoup plus lent. Mais les gens sont beaucoup plus gentils entre eux. Et les klaxons ont diminué pendant très longtemps. Maintenant, ça revient. Ça revient avec la police. Et le couvre-feu la nuit, qui est très très court. C'est très intéressant. Ça fait du calme la nuit. Et donc on dort beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'attends voir quand ils vont enlever le couvre-feu, parce qu'il ne va pas durer très longtemps. Est-ce que la grande vie du Caire, qui ne dort jamais, et donc qui ne fait dormir personne, va revenir? J'espère que non, quand même. Les gens ont besoin de dormir maintenant. Après 30 ans de frustration, peut-être que un besoin de dormir la nuit va retourner. C'est la possibilité pour un pays qui n'a rien fait pendant 30 ans. Et donc, il faut tout apprendre. Apprendre à parler, apprendre à discuter, apprendre à travailler, apprendre à apprendre. Apprendre à la démocratie, parce que personne... Et apprendre même la justice, les concepts de justice, le concept de vie collective, le concept des conflits pacifiques. Hein. Tout ça, c'est à découvrir, à apprendre. Donc je veux faire partie de tout ça.
Retour avec Ahmed El Attar dans la cour de l'université américaine au Caire, à deux pas de la place Tahrir. C'est un des lieux du festival DICAF qu'il a fondé en 2012. Pendant plus d'un mois, c'est un festival international avec danse, théâtre, cinéma, arts plastiques qui investit la ville. C'est inédit. Il y a à la fois des artistes internationaux et égyptiens. Ici, là, au même endroit, la veille, c'était le concert de Yassine El Touami, grand maître chanteur soufi.
Derrière nous, il y a une scène. Hier soir, il y avait un concert soufi. Est-ce que vous pouvez le décrire et décrire un peu les spectateurs?
Hier, c'était en fait le grand maître de chant soufi égyptien, qui est un un énorme chanteur il y a une soixantaine d'années. C'est quelqu'un, quand il va dans les lieux publics pour les moulèdes, qui sont les célébrations des saints musulmans, parce que nous aussi, les musulmans aussi, les sunnites, ils ont les saints, et les chiites aussi d'ailleurs. Et quand il va pour chanter, il y a des centaines de milliers de personnes autour. Et du coup, on n'arrive pas à le voir. Et même des fois, on n'arrive pas à l'entendre. Mais rarement en Égypte, il monte sur scène. Il fait que des événements privés, chez les gens. Et nous, on a pris la décision de le mettre sur scène parce que, avec DICAF, on essaye aussi, c'est un festival international, mais on essaye aussi de mettre en valeur ce qui est contemporain, qui vient d'Égypte, mais aussi du monde arabe. On a eu un public hier qui est vraiment un public rassemblant d'un peu de tous bords, des hommes en galabéa, des femmes voilées, avec des jeunes ultra modernes, avec des étrangers. Et pour moi, c'est ça l'Égypte. C'est ça l'Égypte. C'est ça l'Égypte que j'imagine, que j'ai vécu un peu, et que j'espère qu'elle devienne. C'est cette terre d'accueil qui a, pendant toute l'histoire égyptienne, l'Égypte a accueilli tout le monde. Parce qu'on ne voit pas ça. On ne voit pas les gens en jalabia, les femmes voilées, avec les filles habillées courtes, avec les mecs, je ne sais pas quoi. On ne le voit pas. C'est classe, et ces générations et ces cadres sociaux ne se mélangent pas. Et là, ça a complètement fonctionné. Et c'est super. Et c'est aussi ça, c'est pour cela que les gens aiment DICAF, je pense. C'est pour ça, pour ces expériences-là. Parce que, inconsciemment, ça leur donne l'espoir que les choses vont être différentes.
À partir du Caire, en plein bruit, pour tenter de toucher un peu de son silence, son intérieur, ce qui se trame, ce qui se vit, ce qui s'espère encore, ce qui se passe malgré tout, ce qui ne s'efface pas. Avant la nuit, je dis merci à Inès De Bruyne, Lucie Spindler, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à Jason Taous pour le mixage. Bientôt, il sera 21h, vous écoutez France Culture, ce sera l'heure de Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson.
Yeah, 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 yeah.